Alors, bonjour à tous. Bienvenue pour ce conseil municipal estival. Je vais procéder à l'appel. Monsieur Pierre-Léon Luneau. Monsieur Tom Laborde a donné un pouvoir à madame Janine Le Golvan. Monsieur Yann Guimard. D'accord. Monsieur Vaillé. Ah, je le note présent. Madame Janine Le Golvan. Présente. Monsieur Benjamin Leroux arrivera un petit peu en retard également. Il a donné un pouvoir à monsieur Olivier Lepic. Madame Justine Vienne. Présent. Monsieur Philippe Le Guénec. Il va arriver. Oui. Morgane Petit a donné un pouvoir à madame Nadine Rouet. Madame Cadastulo est absente. Madame Nadine Rouet est en retard. Ah bon, d'accord, pardon. Madame Nicole Le Gagneux. Monsieur Christophe Richard. Madame Juliette Cordès. Va arriver également, je pense. Monsieur Jean-Luc Servet. Monsieur Olivier Buquin. Monsieur Jean-Paul Kergosien. Il doit arriver. Il s'occupe de son exposition. Oui, on a une exposition sur les huîtres plates à l'issue de ce conseil. Je vous conseille tous, d'ailleurs, si vous avez le temps de vous y rendre. C'est passionnant. Monsieur Charles Bietri nous avait promis d'essayer d'être là. Mais voilà. Madame Christine Lamandé a donné un pouvoir à madame Marie-Pierre Gasser. Monsieur Gérard Marc-Albert. Madame Catherine Isoard. Monsieur Michel Durand.
Présent.
Madame Marie-Pierre Gasser. Monsieur Loïc Coudois.
Présent.
Madame Sylvie Robineau.
Présent.
Monsieur Pascal Lejean.
Présent.
Et monsieur Olivier Lepic présent. Nous avons donc le quorum pour délibérer. Christine, je t'ai oublié?
Oui.
Ah bah oui, mince. Christine Desjardins, est-ce que tu es présente? Merci. Autant pour moi. Et voilà Jean-Paul. Je note aussi monsieur Jean-Paul Kergosien. Parfait. Nous avons donc le quorum pour délibérer. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance. Une seconde, monsieur Luneau. Un secrétaire de séance. Christophe, tu veux être secrétaire de séance?
Oui.
Eh bien, tu es secrétaire de séance. Voilà. Monsieur Luneau.
Je vous remercie. Je vois que nous sommes... il y a 16 membres élus de la majorité sur un conseil municipal de 27 membres. Est-ce que je pourrais voir les pouvoirs de ceux qui vous ont donné des pouvoirs? Parce que le quorum étant très fragile ce soir.
Ils sont là, oui, bien oui. Sûr, si vous voulez les voir. Monsieur Le Guénec vient d'arriver, donc il n'y a pas vraiment de pouvoir de quorum. Voilà, ils sont là. Et donc, nous avons quorum.
Ah oui, le quorum est là.
Ouais, voilà. Merci. Alors, je vous propose de passer à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 9 juin 2023. Est-ce qu'il y a... On a le quorum, monsieur Luneau, si on ne va pas faire les calculs.
Très largement. Très largement. D'accord.
Ah oui, c'est 14, le quorum. Il faut retourner à l'école, parce que c'est assez simple comme calcul. Approbation du procès verbal de la séance du 9 juin 2023. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce procès verbal? Madame Le Golvan.
Micro,
parce que...
Au dernier conseil municipal, vous n'aviez pas souhaité vous exprimer en fait sur ce qui s'était passé donc à Montauban, mais vous aviez donc dit que vous alliez attendre le prochain conseil. Donc nous, on vous a fait une lettre ouverte, évidemment, pour vous demander un petit peu ce qui s'était passé, parce qu'on est interrogé par la population.
Oui.
Et ce serait bien qu'on ait quand même des éléments autres que ce que l'on voit ou à la télé ou ce qu'on entend dans la rue.
Okay.
Donc vous l'aviez... Enfin, c'est écrit, en tout cas, vous l'aviez dit. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui, voilà, vous nous fassiez un petit compte rendu quand même de ce qui s'est passé.
Alors, madame Le Golvan, je vous ai fait une réponse à votre courrier. Vous l'avez lu? Oui. Alors, entre-temps, il s'est passé quelque chose. C'est qu'il y a eu deux plaintes qui ont été déposées auprès du procureur de la République de Lorient et qu'il y a donc une enquête qui est diligentée. Et quand j'ai reçu votre courrier, j'ai pris l'angle avec les services du procureur qui m'a donc stipulé que je ne pouvais m'exprimer en public sur cette affaire tant qu'elle était instruite et non jugée par le procureur de Lorient, ce qui est normal. On ne s'exprime pas en public sur une affaire qui fait l'objet d'une investigation judiciaire. Je suis étonné que vous me posiez la question, parce que je vous ai répondu dans un courrier que vous avez obtenu. Donc vous savez pourquoi je ne peux pas m'exprimer aujourd'hui sur le sujet.
C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, ça me paraît aussi un petit peu léger. Ça aurait été bien qu'on ait, vous, votre... Enfin, ce qui s'est passé, factuellement, je veux dire,
sans
chercher...
Je pense que vous avez eu accès au permis de construire. Bon, vous avez pu prendre connaissance de l'ensemble des éléments. J'imagine que vous avez pu vous-même, peut-être, tirer des conclusions, ou vos conclusions de cette affaire.
Si je tire mes conclusions et qu'on qu'on en parle ce soir. C'est pas, enfin, moi, il y a des choses qui m'ont surprise. Maintenant,
est-ce non, mais dès que l'affaire sera jugée, encore une fois, dès que le procureur de la République nous autorisera à avoir un débat public sur la question, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas m'exprimer parce qu'il y a une enquête qui est en cours, comme dans toutes les affaires judiciaires en France.
C'est bien dommage parce qu'au niveau du Conseil, je pense que tous, autour de cette table, on est confrontés aux mêmes questions, enfin bref, aux doutes.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, encore une fois, qui de mieux que la justice va pouvoir déterminer soit les dysfonctionnements, soit les responsabilités dans cette affaire? Elle a été saisie, laissons-la faire son travail. Monsieur Luneau, vous aviez une question?
Je vous remercie. Je ne vais pas approuver le compte-rendu du Conseil municipal du 9 juin 2023. En préambule, vous nous avez fait part de votre désarroi face aux commentaires désobligeants dont vous étiez la cible. Vous avez fait ce préambule parce que j'ai posé une question écrite à laquelle vous avez évité de répondre, assez intelligemment, je dois dire. Mais ça manque
Merci,
de...
c'est gentil.
Ça manque un petit peu de citoyenneté et de sens moral, à mon sens, de vouloir éviter à chaque fois la question dès qu'on vous parle de la destruction d'un site archéologique sur votre commune. Allez-vous répondre à ma question orale ce soir, qui est la suivante? C'est: est-il légal qu'un permis de construire ait été délivré à la SCI des Menhirs et à la SAS Brico-Dolmen un 26 août 2022 ? Et que ce permis de construire ait été présenté en commission urbanisme le 16 septembre 2022, soit 3 semaines après. Je prends le soin de poser cette question orale dès le début du Conseil, et je la pose à l'oral pour qu'elle soit consignée dans les minutes du Conseil.
Et je vais vous répondre immédiatement. Oui, c'est parfaitement légal.
D'accord. Pour quelle raison ?
Parce que ça respecte la légalité.
Non, parce que pour instruire votre permis de construire, vous, et l'accepter... Vous avez un processus, une procédure légale. Il doit passer en commission urbanisme et recevoir l'avis de la commission urbanisme.
Non, pas du tout. Encore une fois, il va falloir travailler un petit peu. La commission donne un avis, un permis peut être délivré sans passer en commission.
Urbanisme.
Ah, tout à fait.
Le maire de la commune...
Monsieur Luneau, avant de lancer les accusations, il faut que vous révisiez un peu vos dossiers.
Mais parce qu'à
titre de transparence, ils passent tous en commission et je suis toujours l'avis de la commission.
Et pourquoi les membres de la commission urbanisme... n'ont pas reçu le compte-rendu du 16 septembre 2022.
Alors ça, j'en ai aucune idée.
Ouais. Comme celle de juin 2022, où on parle du monsieur Luneau,
il y a eu 42 commissions d'urbanisme depuis le début du mandat. Vous en avez assisté à 14.
Vous êtes renseigné.
Oui, tout à fait. J'ai fait le compte parce que je savais que vous alliez nous faire la morale. Donc déjà, avant...
Je ne vous fais pas la morale, je vous pose des questions.
Si, vous m'avez parlé de manque de citoyenneté et de... Donc avant d'accuser, il faut d'ailleurs travailler son droit, parce que, encore une fois, c'est parfaitement légal. Et si c'est pas légal, je vous invite à attaquer devant le tribunal administratif. Et par ailleurs, je vous invite à être un petit peu plus assidu dans les commissions d'urbanisme, parce que ça fait à peine 30% de présence. Donc avant de donner des leçons, balayez devant votre porte et travaillez un peu votre droit, parce que c'est légal. Normalement, on aurait dû répondre à cette question à la fin, hein, mais bon, voilà. Donc j'y ai répondu, tant mieux, ça va nous faire gagner un peu de temps. Puisque donc Monsieur Luneau n'approuvera pas... Oui ?
Vous seriez enclin à redéfinir l'horaire de la commission urbanisme, parce qu'elle a toujours lieu à 14h, celle des finances a lieu à 17h, et permet aux gens qui travaillent...
Je ne suis pas...
C'était
la dernière fois, ça, Monsieur Luneau. En général, ce n'est pas le cas.
Vous êtes membre de cette commission urbanisme, vous n'assistez à aucune commission urbanisme. Je ne vous ai vu dans aucune des commissions urbanistes, aucune.
Non, mais calmez-vous, Monsieur
Luneau. Ne me dites pas qu'elles sont systématiquement à 14h. L'horaire ne permet pas à des gens qui travaillent d'y assister.
Monsieur Luneau, calmez-vous.
Je me calme.
Mais si vous êtes tout rouge, là, déjà, vous n'allez pas aller au bout du conseil.
Comprenez que vous puissiez m'agacer. Vous n'avez assisté à aucune commission urbanisme.
Monsieur Luneau, il y a des présidents dans
les
ces commissions.
Les comptes rendus n'existent pas.
Monsieur Luneau, quand vous parlez, je me tais, je vous réponds. Je vous dis simplement qu'il y a deux présidents dans ces commissions. Toutes les commissions ont un président. Dans cette municipalité, les adjoints ont pleine délégation. Je les laisse travailler. Point final. Voilà, c'est tout. Mais venez pas me faire des leçons d'absentéisme, vous n'y êtes jamais. Je pense que je passe un peu plus de temps pour la commune que vous sur toutes ces affaires et au quotidien. Donc s'il vous plaît, pas de leçons. Donc on va passer au vote l'approbation du procès-verbal. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. On passe aux décisions du maire qui donc vont de la décision 82 à la décision 115B, est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions du maire ?
Janine ? Non, vas-y, toi. Pardon, j'ai pas éteint mon micro.
Oui, moi je vois justement qu'il y a plusieurs déclarations préalables donc pour des abattages d'arbres, donc rue du Ménec, le Runel et les Marais. Alors j'en profite pour poser la question suivante, c'est que près du chemin de Kerderf, sur la route Saint-Cornélie, donc il y a un lotissement de 6 ou 8 maisons, ouais, je crois qu'ils vont se faire. Donc il y aura aussi les abattages d'arbres, ils ne sont pas cités là.
Alors s'ils sont pas, en fait les arbres qui sont l'objet d'une décision du maire, ce sont les arbres qui sont en AVAP. Quand c'est pas en AVAP, alors si on était dans une commune sans AVAP, ça passerait même pas en décision du maire. En fait là ce sont les arbres qui sont en zone AVAP.
Donc quand on instruit le permis, ce qui a été le cas puisque l'affichage est fait, ça veut donc dire que lorsqu'ils ont instruit le permis, ils ont de ce fait décidé de l'abattage des arbres.
Monsieur Durand va vous répondre.
Oui, tout à fait. Dans l'instruction du permis, évidemment, il y a des arbres qui sont conservés, il y en a d'autres qui sont abattus. C'est figuré dessus, on les a contrôlés, vous inquiétez pas. Je pourrais vous le montrer d'ailleurs, sans problème. Non, je vous assure. Il y en a effectivement qui vont gêner, hein, je ne vous cache pas, il y en a au moins 3 qui doivent gêner. Mais c'est marqué dans le permis. Les autres, ce n'est pas des permis, ce sont des arbres qui sont en mauvais état, voilà, qui sont morts, et puis qu'il y a besoin pour la sécurité, déjà d'une part, sécurité des gens, sécurité des maisons, qui ont besoin d'être abattus. On va faire le regarder, si vous voulez, on peut les voir un par un. Mais ils ont été vérifiés, d'une part, par un expert forestier, et d'autre part, par Bernard Burguin, qui est notre spécialiste à la mairie. Et... D'ailleurs, précision également, il y a replantation de demander à chaque abattage d'arbres.
Ça, j'espère que ça vous a contrarié quand même de valider cet abattage d'arbres, parce que ces arbres sont en entrée de ville. C'est vrai que c'est une belle entrée de ville près de la gendarmerie. Oui. Donc, voilà. Et d'avoir, après 8 maisons, je n'ai pas vu les plans, donc je ne sais pas, architecturalement parlant, ce que ça commençait. Mais je trouve un petit peu dommage, quoi, voilà, en entrée de bourg.
Je vous remercie. Au sujet de la 2023-101, la modification numéro 3 du plan local d'urbanisme PLU-Urbaction-8760 € TTC recourt à un prestataire spécialisé pour la modification numéro 3 du PLU, donc du plan local d'urbanisme. Je m'interroge beaucoup sur cette modification numéro 3 dans la mesure où la modification numéro 2 est à peine entamée et que la concertation préalable n'est même pas finalisée. J'ai donc interrogé en commission urbanisme le 20 juillet et en commission finance ce même 20 juillet, les commissions de 14h et de 17h. Les adjoints aux finances, à l'urbanisme et aux travaux, l'adjoint aux travaux étant présent à la commission urbanisme, aucun des trois n'a été capable de me dire sur quoi et pourquoi une nouvelle modification du plan local d'urbanisme, et les bras m'en sont tombés. J'ai trouvé ça peu recevable et peu respectueux de nos fonctions de ne pas être capable de nous dire sur quoi porte cette modification du plan local d'urbanisme.
C'est dommage, mais enfin, bon, c'est comme ça.
Qu'est-ce qui est dommage, pardon Michel, qu'est-ce qui est dommage ?
Non, c'est dommage
que tu étais incapable de me répondre en commission, on ne va pas me dire que tu m'as répondu.
J'ai rien dit de ça. Tu me poses la
question. Conseil municipal, ça n'est pas la guerre, ok ? Ce ton et cette agressivité, là, c'est totalement déplacé. Monsieur Durand va vous répondre, vous le laissez parler, ok ? Stop, sinon je coupe les micros. Monsieur Durand.
Il va y avoir besoin de faire des ajustements suite à l'évolution des règlements. Ça, tu n'ignores pas ça. Pour l'instant, ben, il va falloir réserver déjà cette fameuse modification qui va arriver en fin d'année. Il faut réserver déjà le bureau d'études. Donc aujourd'hui, on a dressé une liste qui n'est pas exhaustive, mais une liste de travaux. Je peux vous en citer quelques-uns. Des ajustements en fonction de l'évolution de la réglementation. Adaptation pour le complexe sportif du Ménec, par exemple aussi, qui n'est pas prêt de se réaliser, mais qui va se faire, et il faudra bien ajuster les possibilités d'installation de tout ce qu'on a prévu. Il y aura également des bâtiments agricoles à étoiler, qui n'ont pas été faits la dernière fois, qui sont aujourd'hui inoccupés. Les gens ont besoin de construire, de faire des habitations dans ces maisons. C'est tout cet ensemble-là. Il y a plein d'autres petits trucs qui vont arriver. On a fait une estimation faite par Urbaction, et donc voilà, c'est tout. C'est en prévision de cette modification qui arrivera en fin d'année.
Merci, monsieur Durand. Autre question.
Je te remercie, mais pourquoi il n'est pas possible d'en avoir connaissance en commission urbanisme?
Mais c'est, il est
un lieu d'échange et de discussion.
Il n'est pas figé. Moi, j'ai des lignes simplement. On a donné les grosses lignes. Il n'y a rien d'arrêté spécialement. Je viens de te dire qu'il faut qu'on réserve le bureau d'études pour la fin d'année.
Et pourquoi tu me dis que tu es au courant de rien quand on est en commission?
Mais non, mais oh putain, c'est bon. Allez, c'est bon.
Laisse tomber, Michel.
Je refuse.
Okay.
C'est bon. Je ne vais pas répondre là.
Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les. Ok, je propose de passer donc au rapport suivant. Je crois que c'est Monsieur Lejean sur la concession du service public.
Décision du maire.
Oui.
Là, on a échangé pour le coup sur les cimetières avec l'adjointe dédiée au cimetière et c'était intéressant. Et le cimetière Saint-Fiacre, qui est très ancien, est en train de.
Monsieur Luneau, on vous a déjà répondu en commission à cette question.
Oui, j'ai un complément. J'ai une amie conservatrice du patrimoine au ministère de la Culture qui m'a envoyé un document que je vais offrir à l'adjointe et à son maire, qui est le mode d'emploi de sauvegarde des cimetières. Ouais. C'est passionnant. Alors, les cimetières et patrimoine funéraire, études, protection, valorisation, documents et méthodes, édité par le ministère de la Culture, est une mine d'or pour essayer de préserver un peu le cimetière Saint-Fiacre et, de, quand on nouvelle les concessions, de ne pas voir les pierres tombales disparaître aussi simplement qu'on l'a déploré ensemble.
On a déjà, je vous remercie beaucoup. Échangé là-dessus. Je sais que vous êtes allé voir Anaïs hors responsabilité, effectivement, qui vous a aussi donné des explications, ce qui est tout à fait logique. Il n'a jamais été dit que les anciennes tombes allaient être retirées. Il est d'actualité de reprendre les concessions qui ne sont pas suivies, pas entretenues et en état de délabrement avec certaines qui entraînent les tombes suivantes. Point. Il n'a jamais été question de reprendre des monuments anciens en bon état. Voilà, ça ne changera pas.
Après, la notion de bon état ou de valeur patrimoniale historique est à. Comme il n'y a pas de classement pour le cimetière Saint-Fiacre, elle sera à la discrétion des services ou des élus. Et. Je trouverais prudent de vraiment se poser des bonnes questions et quand une concession est reprise et qu'elle est livrée donc brute de terre, de proposer que la pierre tombale soit nettoyée de ses gravures et reparte pour un tour.
Eh bien, j'ai dit l'autre jour, j'ai dit que ça allait être repris, regravé et reproposé.
D'accord.
C'est très exactement ce qui est prévu depuis plus d'un an.
Les commissions sont faites pour travailler, monsieur Luneau. On n'est pas au théâtre, ce n'est pas la peine de reposer une question pour laquelle vous avez eu l'ensemble des réponses. Ça ne sert pas vraiment à grand chose. Et surtout que Marie-Pierre vous a répondu déjà une fois, elle vous répond deux fois. Donc évidemment, il ne s'agit pas de ne pas conserver des monuments qui ont une valeur patrimoniale. Et si ce sera fait, je pense que Marie-Pierre a une sensibilité assez évidente sur le sujet. Merci pour le document, on le lira avec attention. Monsieur Lejean, la concession de services publics du casino.
Oui, bonsoir tout le monde. Donc comme tous les ans, on a présenté effectivement le rapport du délégataire pour la DSP du Casino Circus. Donc juste un petit rappel, on est sur l'année 2021-2022. Historiquement en France, les casinos ont un exercice qui commence le 1er novembre de chaque année et finit le 31 octobre de chaque année. C'est juste ça que je voulais vous dire. Donc on est dans un rapport délégataire où on sort effectivement, c'est la première année où il y a une année complète sans Covid. Voilà un petit peu, je vous propose de passer, pas faire tout l'historique, je pense que tout le monde a eu le rapport derrière, juste vous donner les éléments principaux. Rapidement à la page 9, si Philippe veut bien y aller, 9. Oui, ah ben, je vais vite. Le reste, c'est du le pourquoi, du comment de la chose. 9, pourquoi sur la page 9, vous avez 29 ans d'histoire. Et je voulais juste flasher un petit peu sur l'année 2016, hein, puisque c'est le Casino de Briançon et Port-le-Cat et Carnac qui sont arrivés effectivement dans le groupe. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça. C'est le début de l'histoire avec effectivement le groupe Circus. On va passer après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Page 12. Donc vous avez effectivement page 12, on va reprendre sur l'article en 2016, on descend un petit peu plus bas. Hop, stop, c'est bon. Le casino L'Escudre et ça devient un associé majoritaire de la société franco-belge de casino, la SAS, hein, société franco-belge et procède à l'acquisition du casino de Briançon par le Cat et Carnac, puisque le groupe Circus est au départ un groupe belge, et pour arriver sur le métier des casinos en France, c'est associé avec la société française de casinos. et ils ont créé la SFBC. Voilà, en 2018, voilà, on a une petite évolution. Ardan Casino International, anciennement Circus Lescure, détient 100% de la SFBC SAS, hein, donc elle-même propriétaire des casinos Carnac, Port-le-Cat et Briançon. C'était juste pour vous refaire un petit peu l'historique, rapidement, de ce qui est avec le groupe Circus. Page 15, vous avez en 3.3 les renseignements juridiques sur l'exploitation. Voilà, je vous donne juste la problématique qu'on a renégocié une DSP effectivement en 2020. La première DSP allait jusqu'à 2020, qui avait été faite avec le groupe Accor. Et entre-temps, il y a eu Accor Barrière et après Barrière. Et Barrière a vendu à la SFBC. Et donc, l'échéance arrivait en 2020 et qu'on a refait une DSP de 15 ans avec effectivement le groupe Circus. Ce qui est donné dans les détails que vous avez, ce qui a été mis un petit peu en termes d'investissement. Alors pourquoi on avait parlé d'un terme d'investissement ? Il y a eu une époque où effectivement il avait manqué un peu d'investissement dans le casino Circus et je voulais entre autres verrouiller avec Olivier, on en avait discuté, un minimum d'investissement effectivement qui soit fait sur cet outil de production, donc de travail. Des questions ? Non. Si vous voulez, on va continuer à aller un petit peu plus loin. On va aller à la page 18. Là, on va retrouver les chiffres d'affaires, ce qui nous intéresse. Hein. Je vous ai bien précisé dès le départ hein, les dates que vous avez de l'exploitation du casino Circus, puisqu'on est décalé avec celle de la mairie. Quand vous avez les chiffres, effectivement, des taxes de jeu à la mairie, ce sont sur une année civile. Or là, on est sur une année casino, hein, toujours du 1er novembre au 31 octobre. Donc vous avez N-1 avec une période Covid, hein, parce que je rappelle, en 2021, il y avait encore les problématiques. Hein, et vous avez effectivement l'année N qui correspond à l'année en cours. Donc effectivement des chiffres mais vous les avez déjà vus dans les bilans du compte administratif de la mairie, puisqu'on avait vu effectivement les taxes de jeu remonter. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour répondre. Derrière, on espère retrouver rapidement des camps de faire évoluer encore nos produits bruts machine à sous et le chiffre d'affaires global. Un petit peu plus fort et espérer d'arriver vers les 8,5 millions, 9 millions pour atteindre, si possible, à peu près une taxe de jeu que j'avais proposé d'engager à peu près 1 million d'euros. Je vous rappelle, c'est monté jusqu'à 1,4 million et on a à peu près 800 000 aujourd'hui. Sur la page 21, vous avez l'évolution un petit peu, alors toujours, hein, c'est très difficile à comparer parce qu'on est toujours dans une année Covid, hein. Exercice, vous voyez, 2020-2021, 44 153 entrées, 89 973 pour l'exercice en cours. Pareil au nombre de couverts. Donc on revoit une reprise de l'activité avec effectivement en plus depuis, si je ne dis pas de bêtises, depuis septembre, un nouveau directeur qui est Monsieur David Royer qui est venu rejoindre le groupe Circus pour redynamiser le casino de Carnac. Sur la page, je vais aller un peu plus loin, je vous passe les blablas, les règles d'hygiène, ainsi de suite. La page 33, vous retrouvez quelques données financières. Hein. Juste un petit rappel aussi, c'est un peu compliqué hein, le système des casinos. Il y a un prélèvement à peu près de l'État sur le produit brut de jeu. Vous avez un prélèvement de l'État, je fais court et simple, mais qui est à peu près de 50%, qui varie en fonction des produits. Hein. Ça peut être différent avec des machines à sous, avec une roulette ou avec des jeux de table. Et là-dessus, l'État redonne 10% à la collectivité. Et après, on a le taux de la collectivité qui est chez nous sur un taux progressif de 10, 12, 15%. Donc cette année, on devrait atteindre les 15%, retrouver les 15%, effectivement, et qui amène au global, quoi. C'est juste ça que je voulais bien préciser derrière pour que vous ayez un petit peu cette idée. Page 34, historique sur 5 ans. Hein, vous allez l'avoir un peu l'historique sur 5 ans, le chiffre d'affaires. Vous revoyez hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous l'avez effectivement sur 5 ans, qui explique bien les années compliquées les années Covid, hein, que ce soit en N-1, en N-2 par rapport à N-3, que vous avez derrière. Sur la page 36, vous avez le rapport du délégataire sur, effectivement, les animations. Je vous rappelle que, dans la DSP, le casino a une obligation d'animation. Donc, vous avez un peu le détail de toutes les animations qu'il y a, en plus de la participation qu'il a avec, effectivement, les associations carnacoises, puisqu'il participe à plusieurs activités sur les associations carnacoises, que ce soit agriculture, la SNSM, PACA Festival, les sapeurs-pompiers de Carnac, le Bagad, puisque je vous rappelle, le Bagad, le CD du Bagad, et aussi le casino participe à la réalisation du CD du Bagad, différentes choses comme ça. Alors c'est vrai que ça repart un petit peu plus doucement, hein, puisque avant il y avait plus d'activités, mais je pense qu'on retrouvera pour l'année 2022-2023 une activité qu'on connaissait avant Covid. Voilà un petit peu pour les éléments derrière. Vous avez la page 38, vous avez les effectifs, l'organisation qu'il y a dans le casino en page 38. Voilà un petit peu, hein. Donc je vous ai parlé du directeur, voilà les responsables des ressources, les membres, l'organisation qu'il y a avec le nombre, voilà, le nombre, 5 caissiers, 4 assistantes. Enfin bref, l'organisation du fonctionnement du casino Circus. Et on va finir par la page 40 qui va nous présenter monsieur notre nouveau directeur, voilà, il arrive, comme ça vous l'avez là, il est même dans la salle, qui est dirigé donc depuis le mois de 1er novembre, j'avais dit mois de septembre, j'étais un petit peu en avance, on s'est rencontré la première fois au mois de septembre, c'est pour ça que j'ai dû garder cette date-là en tête, monsieur David Royer. Voilà.
Parfait. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport du délégataire, monsieur Guimard?
Bonjour, excusez mon retard tout d'abord. Juste une question, c'était page 33 sur le 1% du CA net qui n'a pas été versé les deux dernières années ou sur les deux derniers exercices.
Exact.
Est-ce qu'il est revenu, il est bien remis en route à partir
oui,
de...
Oui, il a été remis, il était versé sur l'exercice de l'année dernière, il n'a pas été versé sur l'exercice d'avant puisque Covid, on l'avait effectivement gelé à cause du Covid et sur l'exercice dernier, il a été versé. Sur l'année 2022, il a été versé. Hein, puisqu'on en est en année civile par rapport... voilà. Non. On parle, oui, tout à fait. 21-22 pour l'exercice comptable, effectivement, du casino et l'année 22 pour l'exercice de l'office de tourisme.
Bon, donc c'est juste qu'il n'y a pas de vote, hein, c'est juste une prise. Une, vous êtes invité à prendre acte donc, de ce rapport financier. Merci, monsieur Lejean, d'avoir rendu une chose compliquée aussi simple. Le rapport suivant, Madame Gasser, sur les marchés publics des titres restaurants pour la ville et le CCAS.
On a déjà parlé plusieurs fois ici du marché effectivement des titres de restaurants pour la ville et le CCAS. Là, simplement, c'est un compte rendu au niveau de la commission d'appel d'offres où trois offres ont été présentées et la société UPCOP a retenu l'attention. Et donc, on demande d'autoriser le maire ou son adjoint à signer le marché public et d'effectuer les mesures nécessaires pour sa mise en œuvre.
Pas de questions ? Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? Je vous remercie, monsieur Lejean.
Alors c'est voilà pour le musée, hein, donc c'est dans le budget annexe du musée, c'est une APCP qui est fait effectivement pour le nouveau musée et de demander l'ouverture d'une APCP à la hauteur de 5,7 millions qui correspond à tout ce qui est les frais de concours d'architecte, à tout ce qui est la MOE et tout ce qui est frais connexes. Pardon, excusez-moi. Je vous rappelle que dans le budget de 2023, pour le budget annexe, on avait voté une subvention, la mairie avait voté une subvention un peu plus de 800 000 euros. Aujourd'hui, il y a une modification à faire pour pouvoir ouvrir la PCP d'un montant de 5,7 millions avec un engagement en 2023 d'1,075 million d'euros.
Il y a des questions sur ce... Monsieur Guimard ?
Oui. Première question, c'est il y aura combien de phases ? Parce que on voit que c'est mi-phase 1. Et si vous voulez, je continue. Et ensuite, vous prévoyez l'ouverture pour quand de ce musée potentiellement ?
L'ouverture, c'est plutôt 2027.
Ok.
C'est le dernier calendrier. Après, ça peut bouger, okay. Mais 2027.
On est toujours sur un budget de 26 millions ?
On est toujours sur un budget de 16 millions. Voilà, 16 millions hors taxe, ce qui fait 20 millions TTC pour le musée en lui-même. Oui, tout à fait.
Et j'ai alors là, on va revenir sur la dans la décision du maire 20-23-85, il y a 13 000 € d'alloués pour la scénographie du musée. Est-ce que ça a un rapport avec le futur musée ou c'est pour le musée actuel?
C'est pour... Pardon.
En fait, les 13 000 €, c'est une somme dédiée à un prestataire qui va aider le musée actuel, enfin l'équipe musée, à préparer tout ce qui relève des produits multimédia autour du mégalithisme. Donc, c'est une spécialisation dans ça, en vue de l'aménagement. C'est en vue de l'aménagement du nouveau musée.
C'est pas pour l'actuel, c'est pour l'avenir.
Ok. Donc, en combien de phases, alors vous allez faire plusieurs APCP pour le musée?
Là, on est dans une APCP pour lancer la MOE, pour, effectivement, et la prochaine APCP, ça sera effectivement pour les travaux. Mais donc, il sera modifié. On restera sur le timing que vous avez là, 23, 24, 25, 26, pour une ouverture, effectivement, en 27. Dans les travaux, on aura sans doute un complément en 27, puisqu'on a toujours un décalage en termes de facturation et de paiement par rapport à l'ouverture.
Alors, je vous propose de passer, Monsieur Luneau.
Je vous remercie. J'ai plusieurs questions au sujet de cette délibération. Est-ce que je vous les pose toutes d'un coup ou l'une après l'autre?
Non, bah, toutes d'un coup, comme ça on traitera.
Vous ne me couperez pas la parole?
Ah ben non, moi je ne vous coupe jamais la parole.
Waouh. Je vais voter contre et non même pas m'abstenir parce que je ne suis pas pour qu'on déménage le musée de préhistoire de 200 mètres pour un montant de 20 millions d'euros TTC, sachant que le...
C'est pas une question, ça.
On a coupé la parole.
Non, mais je croyais que vous aviez posé des questions.
Ah, le conseil municipal est un lieu de débat et de...
Oui, d'accord, mais...
Où les conseils municipaux
avec le débat,
peuvent,
mais...
s'il vous plaît,
vous parliez des questions, donc j'attends vos questions.
Le musée de préhistoire, selon vos volontés, va être déplacé de 200 mètres pour un montant de 20 millions d'euros TTC, chiffré à 26 millions en réalité, chiffre qui a été miraculeusement réduit d'une commission à l'autre auquel j'assistais. Vous n'êtes pas capable de nous dire ce que vous allez faire de l'ancien site du musée de préhistoire. Première question, est-ce que vous voulez répondre?
Non,
toujours pas, vous n'êtes toujours pas capable de dire aux Carnacois et aux Carnacois.
Pour l'instant, on ne sait pas, non.
D'accord. Non. Vous trouvez ça sérieux?
Oui.
D'accord. Je vote contre cette délibération car je pense que le denier public carnacois, communautaire, de l'ACTA, de la région, du département serait mieux là où il est utile pour du logement, pour les habitants de la commune, pour les saisonniers. Vous le savez, je le redis, je le redirai encore et encore. J'ai fait un recours au tribunal administratif pour décrier et dénoncer l'illégalité de la procédure des marchés. Vous le savez. Vous continuez, vous persistez, vous allez démolir un bâtiment dessiné en 1972 par l'architecte Yves Guilloux, l'ancienne cantine municipale. Le bâtiment a été recensé dans l'AVAP.
Non.
J'ai envoyé
inventorié, pas recensé, c'est pas
alors, inventorié par le cabinet Wagon, mandaté par la commune de Carnac pour recenser les architectures remarquables de Carnac. Le cabinet Wagon l'a recensé, vous l'a présenté. Il y a un rapport de 33 pages où on voit tous les bâtiments dessinés par Yves Guilloux à Carnac, le Yacht Club, le centre de Talasso, le collège, la cantine municipale. Et vous allez détruire ce bâtiment alors que la communauté de communes est en ce moment même en train d'effectuer un nouveau recensement de toutes les architectures de l'architecte Yves Guilloux, emblématique pour le Morbihan. J'ai envoyé cette information à tout le conseil municipal parce qu'elle n'a pas été communiquée avant la destruction de ce bâtiment. Est-ce que vous prenez la responsabilité de recommencer ce qui s'est passé sur le site du chemin de Montauban?
Ok.
Je
réponds pas à cette question. Oui, bien sûr, ce bâtiment n'est... Enfin, Monsieur Guilloux a construit beaucoup de choses à Carnac. Il y a des choses qui sont admirables et qui sont protégées, qui sont classées. D'autres qui ne le sont pas. C'est le cas du restaurant scolaire. Tout ça a été fait en toute transparence avec l'architecte des bâtiments de France, avec la DRAC. Donc la réponse à votre question, c'est oui.
Alors moi, j'étais à la commission où l'architecte des bâtiments de France a fait remarquer que ce bâtiment avait un intérêt. Au moment où vous avez choisi le site contre Je rappelle quand même l'avis du président du Centre des Monuments Nationaux, aujourd'hui conseiller à la culture du président de la République. Vous avez fait disparaître son avis. L'ABF a donné son avis sur le bâtiment
Monsieur Luneau,
en commission.
Monsieur Luneau, on peut débattre sans que vous disiez des bêtises. On n'a pas fait disparaître
J'étais
son avis.
À ces
Philippe Bellaval est un ami. Je le connais depuis très très longtemps. Il aurait bien voulu que ce soit plus proche du Centre des Monuments Nationaux, près des Alignons. Ça n'a pas été le choix de la municipalité. Ça a été une décision qui n'était pas une décision personnelle. Il y a eu un jury. Qui a pris une décision. Vous pouvez vous raccrocher à quelques avis qui n'étaient pas les mêmes, mais ce n'est pas une raison pour dire que voilà, ce choix n'est pas un choix personnel. C'est un choix d'un jury. Et il faut le respecter, même si vous n'êtes pas d'accord. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord.
Donc vous prenez acte que vous allez démolir un bâtiment recensé dans la VAP.
Inventorié. Il n'est même pas recensé dans la VAP. Il est dans un document de travail dans lequel le cabinet GECO a inventorié un certain nombre de bâtiments construits par des architectes qui ont marqué l'histoire de la commune. Un certain nombre de ces bâtiments ont été protégés par la VAP. Ça n'est pas le cas de la cantine. C'est ma réponse.
Qui a décidé de ça ?
Le conseil municipal, quand il a adopté la VAP.
Vous avez la preuve de ça ? Vous avez présenté tous les bâtiments ?
Oh. Ok, alors, prochaine question.
Voilà, vous avez décidé seul.
J'ai répondu à la question.
Vous avez décidé seul que ce bâtiment n'était pas à l'endroit qui vous arrangeait ?
Monsieur Luneau, j'ai répondu à la question. Vous avez fait votre remarque. Le conseil municipal en est informé. Il votera. Ça s'appelle la démocratie.
Et donc, nous partons pour dépenser. 20 millions d'euros TTC chiffrés à 26 millions, réduits à 20 sur les documents présentés au conseil municipal. Et je vous rappelle que les musées en France qui se construisent généralement finissent 1,5, 1,7 fois plus cher que le montant annoncé. Vous vous rendez compte dans quoi vous engagez la collectivité ?
Je
vous fais remarquer aussi que la subvention de l'ACTA n'est pas votée. J'étais au conseil communautaire. La subvention, vous ne l'avez pas.
Mais on ne l'a pas encore, non ? Mais elle sera votée en temps et en heure. Vous
Comment êtes-vous si sûr ? J'étais au conseil communautaire. C'est le seul moment où vous avez sorti le nez de votre téléphone portable.
Oh, monsieur Luneau, arrêtez. Sinon on va arrêter ce conseil municipal. Ça suffit, ok ? On est dans un débat démocratique. Les attaques personnelles et l'agressivité inutile, ça ne sert à rien. Vous voyez bien que vous êtes en train d'agacer tout le conseil, ok ? Donc soit vous comportez de manière pesée.
J'essaye d'informer les conseillers municipaux des responsabilités qu'ils prennent. En même temps,
les prenez pas pour des petits-enfants, ils votent en leur âme et conscience. D'accord. Et vous ne détenez pas la vérité, monsieur Luneau. Vous détenez votre vérité. Laissez les conseillers municipaux se prononcer.
Alors,
okay ?
En 72, parfait. J'étais pas là, en effet, quand le bâtiment de la cantine municipale était dessiné par Yves Guillou. Et l'architecture est d'autant plus remarquable qu'il en a assuré la maîtrise d'œuvre. Le fonds Yves Guillou en atteste.
Très bien. Merci, monsieur Luneau. Je vous propose donc de passer au madame Le Golvan, monsieur Guimard.
Moi aussi, j'aurais une remarque à faire. Donc, on va voter contre aussi, mais on avait déjà voté contre le projet. Parce que pour nous, il y a d'autres priorités. C'est vrai que le foncier et monsieur Servelle avait bien défendu, le foncier qu'on va donc utiliser aurait pu servir, en effet, à faire du logement. C'est pour nous une priorité quand même. Enfin, en tout cas, de tous les Carnacois, c'est une priorité. Et puis, c'est vrai que le budget, de mettre autant d'argent dans ces temps difficiles, on aurait pu l'orienter en fait différemment et pourquoi pas construire et faire du logement locatif pour le coup. Donc voilà.
J'entends. Le micro, monsieur Luneau. Non, monsieur Luneau, c'est bon.
Après, j'étais au concours, j'ai assisté aux deux autres séances, soit quatre séances de comité de pilotage et de réunion donc d'une commission appel d'offres qui permet de voir se dérouler un jury de concours. Le projet retenu n'a pas fait l'unanimité. Il empiète sur toute la parcelle. Il y a un projet qui prenait soin de conserver les arbres, de conserver le mur d'enceinte historique. Le projet le plus encombrant a été retenu. J'étais au musée quand les maquettes ont été présentées au public, aux amis du musée. Il y avait 30 personnes qui se sont intéressées au projet. Je doute qu'il s'agisse d'un projet prioritaire pour l'avenir de la commune, sincèrement.
Okay, merci. Merci pour les nombres de jeux dans la phrase.
Mais je vous donne mon avis en tant que conseiller municipal.
Tout à fait, mais on l'a parfaitement entendu. Donc je vous propose maintenant, si vous en êtes d'accord, de passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre ? J'ai compris qu'il y en avait. Voilà, parfait. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Oui, mais il a un pouvoir de Mme Le Golvan, donc ce sera pris en compte. Et donc, est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc le rapport est adopté. Merci à tous. Monsieur Lejean, la décision modificative numéro 1 du budget du musée.
Donc suite au vote de la PCP, comme vous avez pu voir, est engagé 1 175 000, comme je vous ai parlé tout à l'heure, et que dans le BP, on avait mis 864 000 euros. Donc il y a une modification du budget numéro 1 à la hauteur de 211 000 euros. Qui est 177 dans les immobilisations incorporelles chapitre 20 et qui est de 34 000 dans le compte 238 avances versées sur commande d'immobilisation corporelle, puisque c'est à la demande du cabinet que effectivement dans le contrat qui a été signé avec une avance de 5%, ce qui fait 211 000 et qu'il faut modifier pour que effectivement le budget du musée soit en connexion avec effectivement la PCP qu'on vient de voter.
J'avais une question par rapport donc tous les cabinets qui ont présenté un projet, donc ça a représenté, c'est ça, 100 cabinets. Vous avez 100 réponses. 100 réponses, d'accord. Il était dit ou écrit en tout cas aussi que en fait on finançait tout chaque projet, que les 4 retenus, d'accord. Okay. Non, mais ça aurait pu, hein. Ils ont travaillé. Non, mais...
Pour être clair, chaque.
Il y en a 4 qui ont travaillé.
Oui. C'était 90 000 par cabinet, c'est ça?
Les autres se sont juste présentés en tant que cabinet avec un flyer, en disant ils n'ont pas.
D'accord, c'était pas finalisé. Donc ça fait à peu près 400 000 euros qui vont sortir pour justement financer ça.
Le moins, oui.
Et ils sont dans.
Ils sont dans les 1 million. Oui, tout à fait. Dans le détail, ils y sont. Y compris les 13 000 euros que vous a parlé tout à l'heure Jean-Luc Servet. Ils sont dedans aussi.
Ok.
Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Le rapport est adopté. Je vous remercie. Monsieur Servet, toujours sur le musée, justement, l'attribution et l'autorisation de signature du marché de maîtrise d'œuvre issu du concours.
Oui, pour faire un rapide historique de cette procédure, selon la délibération du 2 décembre dernier, le conseil municipal avait autorisé l'organisation de ce concours restreint de maîtrise d'œuvre en vue de la désignation d'une équipe de maîtrise d'œuvre pour la conception et le suivi de la réalisation de ce futur musée de préhistoire sur le site de l'ancien restaurant scolaire. Pour rappel, le tableau des montants budgétés pour un coût global prévisionnel de l'opération de 16 835 hors taxes, incluant évidemment les travaux, mais également toutes les prestations intellectuelles de frais de maîtrise d'œuvre, de bureau de contrôle, de coordination, d'études, etc. Les opérations diverses de collection, déménagement des collections, préservation, etc. Et bien sûr, des aléas et actualisations à hauteur de 1 075 000. Donc l'avis de concours a été publié après le conseil municipal en date du 15 décembre au bulletin officiel, etc. Et pour sélectionner nos candidats, comme ce qui vient d'être dit de façon succincte, il a été organisé un concours en deux temps. Un premier temps où les candidats présentaient des dossiers qu'on pourrait qualifier de dossiers administratifs qui ont amené le jury à se prononcer au titre d'une première réunion le 17 février 2023. Et sur les 100 candidatures retenues, sur les 100 candidatures reçues, pardon, 4 ont été retenus pour présenter au titre de la deuxième phase du concours des choses beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire un rendu qualifié d'esquisse plus qui ont consisté à remettre des dossiers de plans, de descriptifs, de mémoires techniques, de maquettes et de films présentant pour chacun des 4 lauréats de la première phase, le projet qu'il souhaitait nous soumettre. Une deuxième phase de jury a été organisée et a sélectionné un projet sur les 4 présentés. Pour des questions de alors tout a été évidemment totalement anonymisé et plutôt que donner des noms pli numéro 1, pli numéro 2, pli numéro 3 et pli numéro 4, il a été décidé comme par hasard de donner des noms qui sont à chacun des projets anonymes. Menec, Kermario, Magnot et Kerlescan. Le fruit du hasard a voulu que ce soit le Magnot qui se détache des quatre dossiers et qui a retenu l'avis favorable du jury de façon assez, là encore, excusez-moi de l'image, détachée par rapport aux trois autres candidats. Pour autant, bien évidemment, ce ne sont que des projets au stade Exquise Plus et tout n'est pas totalement défini et parfait. Et ça amène à des observations de la part du jury, observations qui ont été associées à l'avis motivé du jury. Ces observations ont été prises en compte par le candidat qui a déposé le projet Magnot. Il a répondu aux observations et à la demande de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire la commune de Carnac. Et c'est ce qui nous amène à proposer, je vais y venir dans un instant, de soumettre au vote ce soir le choix de l'équipe Projectile. Pour information, les quatre projets, une fois les plis ouverts, le projet numéro 1, Magnot, c'est l'équipe Projectile et tous ses co-traitants. Le projet numéro Ménec, numéro 2, arrivant en deuxième place, c'est le Encore Heureux. Kermario arrivant en troisième place, c'est le groupement Emma, et le quatrième, Kerlescan, c'est Frenac et Julien. Chacun des participants, effectivement, comme il vient d'être évoqué, se voit attribuer une prime de 90 000 euros hors taxes par équipe, ce qui en réalité coûte à la commune non pas 4 mais 3 fois 90 000, puisque les 90 000 du candidat retenus viennent finalement en déduction de ses honoraires de maîtrise d'œuvre proposés. Puisque pour lui, ça n'est pas un travail pour rien, mais c'est un morceau, un début du travail global. Donc au vu de tous ces éléments, de l'avis et du procès-verbal du jury, l'acheteur, c'est-à-dire la commune de Carnac, désigne le projet du mandataire Projectile lauréat du concours. Le montant des honoraires après négociation est de 2 049 342 000 hors taxes, soit 2 459 210,40 TTC, qui comporte une mission de base de la maîtrise d'œuvre et au titre de l'appel d'offres qui a été et des conditions de marché qui ont été établies dans le cadre du concours, des missions complémentaires éventuelles de signalétique et de scénarisation multimédia, la répartition étant très majoritairement la mission de base pour 1 996 hors taxes et complémentaire pour 53 142. Dans le cadre du projet de délibération, il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre au groupement représenté par Projectile en tant qu'architecte mandataire et l'ensemble de ses co-traitants listés ici, selon leurs spécialités respectives, que ce soit des bureaux d'études structure, des bureaux d'études fluides, courant fort, courant faible, acousticien, conception multimédia, audiovisuel, graphisme, signalétique, éclairage, scénographie, paysagiste et économie de la construction. Voilà. Et donc, il est proposé d'autoriser le maire à signer le marché de maîtrise d'œuvre avec Projectile mandataire du groupement pour un montant provisoire de 2 049 342 hors taxe.
Il y a des questions, Monsieur Luneau ?
Vous trouvez normal d'engager autant d'argent pour un musée dont on ne voit même pas la couleur au conseil municipal? Vous pourriez quand même respecter le...
Mais on peut
le présenter.
On peut le voir, mais il y a eu...
Le conseil municipal va voter, n'a même pas vu la couleur du projet.
Non, mais si. D'abord, la majorité municipale l'a vu. Ensuite, vous l'avez vu aussi, M. Luneau, M. Guimard, puisque vous êtes allé à l'exposition au musée. Donc, je ne sais pas si Mme Le Golvan a eu le temps de passer, mais on peut très bien, effectivement, le montrer. Mais tout le monde l'a vu, M. Luneau. N'essayez pas de faire des grands effets.
Non, c'est pas un grand effet.
Ça tombe un peu à plat, là.
Vous avez pris le projet le plus tape à l'œil. Il y avait un projet qui s'intégrait bien dans le paysage.
C'est pas moi qui ai pris le projet. Il y avait un jury, monsieur.
Mais non, vous aviez la majorité du conseil municipal à voter dans les membres à voix délibérative.
Bon, si c'est pour dire des bêtises comme ça...
Ah non, c'est pas une bêtise. Combien il y a de membres dans la commission appel d'offres?
Et alors, quels ont été les résultats?
Bah, le projet le plus envahissant pour l'entrée de la ville.
C'est pas parce qu'il vous plaît pas. Il y avait
non,
des...
ah, mais non, mais j'ai non, voté. Non, mais... Je me suis absolument
voté. Monsieur
Luneau,
on va arrêter là parce que dans ce jury, stop. Dans ce jury, il y avait des professionnels du ministère de la Culture.
Il y en a un qui était absent et l'autre n'avait pas suivi leur avis.
Il y avait des professionnels du ministère de la Culture. Il y avait des sachants.
Qui n'avaient pas de mots.
Monsieur Luneau, je vous ai dit que quand je prends la parole, vous vous taisez et ensuite vous reprenez la parole quand je vous la donne. Donc, sinon, je vais arrêter le débat. Donc, il y a un code des marchés publics qui organise très précisément ce genre de processus avec des représentants qui sont désignés par l'État, par la région, par le département, par le conseil municipal. Il y a eu un vote, comme Monsieur Servet vous l'a dit, ces experts et également un certain nombre de conseillers municipaux, dont vous n'avez pas voté, ont pris une décision, en leur âme et conscience, à une très large majorité pour ce projet. Il ne vous plaît pas, c'est une chose, mais arrêtez d'essayer de faire croire qu'il y a eu des malversations dans cette affaire. C'est un jury qui s'est prononcé de manière, je pense, totalement transparente, en respectant la loi, encore une fois.
Moi, j'ai jamais parlé de malversation. Je vous demande combien il y avait de membres à voix délibérative dans ce jury.
Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une très large majorité, y compris des élus, pour ce projet. Toute question, toute autre considération.
Il y a une très large majorité des élus de votre majorité à voter.
Mais ça suffisait pas pour avoir la majorité.
Bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Et vos experts sont vos conseillers municipaux. Et nous, on n'a pas le droit de voir le projet en conseil municipal. Vous vous rendez compte que c'est difficilement acceptable pour le denier public
Ah, pour le denier public, il vous a parlé à l'oreille, il vous a chuchoté le denier public.
J'en rêve toutes les nuits.
Bon, okay.
De ce qu'on fait
donc,
de notre argent,
écoutez, puisque,
vous rendez compte, c'est l'argent des impôts.
Puisque Monsieur Luneau le prend comme ça, Monsieur Guimard,
s'il vous plaît.
Vous avez pris une décision seule.
Monsieur Guimard. Monsieur Guimard.
J'ai effectivement été voir les quatre projets, mais par contre, projectile, je sais pas, je ne saurais pas dire lequel c'était.
Non, mais
effectivement, ça aurait été intéressant, je pense, d'avoir au moins la maquette, soit ici, soit là.
Tout à fait.
Et pour le public aussi.
Non, on va voir celui qui a été retenu, puisque c'est le jury qui a décidé, et je suivrai l'avis du jury. Donc. Et si vous voulez voir les quatre projets, vous allez à l'exposition qui existe au musée, qui est très bien faite.
30 personnes se sont précipitées pour...
Ceux qui étaient intéressés par le sujet.
Oui, donc c'est 30 personnes qui viennent voir le projet, c'est la majorité des habitants.
Bah, c'est un peu plus de monde qu'à votre réunion publique sur le stade du Ménèque.
Il n'y en a pas eu.
Ah bah justement, vous aviez promis la Fédération française de football et une réunion publique, elle n'a pas eu lieu non plus.
Ils en ont marre de vous savez.
Je trouve de parler comme ça.
Monsieur le maire,
pardon.
Est-ce que je peux...
Oui, bien sûr.
Je siège dans ce conseil municipal, en tout cas j'ai siégé dans ce conseil municipal pour la première fois il y a 40 ans. J'en suis à ma quatrième mandature en deux fois. J'ai vu des situations très différentes. J'ai vu des oppositions très différentes, tout à fait honorables, qui défendaient des points de vue différents de ceux de la municipalité. Mais je dois dire que je n'ai jamais vu, un ton employé comme celui que vous employez, mon cher collègue, pour vous adresser au maire. C'est pas convenable. Qu'on ne soit pas d'accord, qu'on ait un avis différent, qu'on ait une opinion différente, c'est la démocratie, c'est le jeu du débat. Mais la moindre des choses dans une démocratie, c'est de respecter ses interlocuteurs, c'est de respecter non seulement la fonction. Le maire de Carnac a été élu par la population, puis par le conseil municipal, mais également les personnes. Et c'est pas convenable. Voilà, je voulais simplement dire ça. On peut avoir un débat, on peut échanger, et on peut ne pas être d'accord, c'est normal. Mais je trouve que vraiment, en particulier aujourd'hui, mais ce n'est pas la première fois, le ton qui est employé va largement au-delà du débat démocratique. Et ça crée un débat et un climat qui n'est pas sain, qui n'est pas à la hauteur de notre responsabilité commune. Notre responsabilité vis-à-vis des Carnacois. Donc vraiment, moi je vous demande, en tant que conseiller municipal, m'adressant à un collègue, s'il vous plaît, de vous adresser différemment au maire et de ne pas avoir une suspicion, même vis-à-vis de l'ensemble des membres du conseil, qu'ils ne comprennent rien, ils ne font rien, ils n'écoutent rien. C'est ce qui est vraiment implicite dans vos propos.
Jamais dit qu'il comprenait
rien,
j'ai dit qu'il n'avait pas accès à l'information.
Monsieur Minot, attendez que Monsieur Monquin ait terminé de parler.
Je remercie que ce soit au procès verbal, et j'aimerais, en tout cas j'émets le vœu, qu'on reste dans cette enceinte à un débat démocratique et respectueux des fonctions et des personnes.
Alors, je vous remercie pour ces remarques et j'adhère
Monsieur
Luneau, à 100%.
Monsieur Luneau, je vous ai
vous
pas
trouvez normal que
parole.
Je sois obligé d'aller à la gendarmerie pour récupérer des documents qui me sont subtilisés en commission et que la gendarmerie soit obligée d'appeler la collaboratrice du cabinet du maire pour qu'elle me rende mes documents?
Mais Monsieur Luneau, vous dites vraiment n'importe quoi.
Vous appelez ça la démocratie?
Monsieur Luneau, vous dites vraiment n'importe quoi. Vous déposez un document, Monsieur Luneau. Je ne peux pas vous laisser dire des bêtises comme ça. Vous déposez un document en commission urbanisme en demandant qu'il soit paraffé. C'est bien ça. Il atterrit sur le bureau en me disant « Monsieur Luneau souhaite qu'on le paraffe ». Je n'ai aucune raison de paraffer un document que vous avez apporté en commission. Il est resté pendant 48 heures sur le bureau à votre disposition. Vous l'aviez déposé. J'imagine d'ailleurs que vous aviez une version informatique de ce document. Et on apprend que vous êtes allé en gendarmerie pour dire qu'on vous a volé un document que vous avez vous-même déposé en commission urbanisme. Mais enfin, j'ai eu les gendarmes à la suite de votre truc, ils m'ont dit « Qui est ce clown ?» Franchement,
ils m'ont dit la même chose de vous. Ils m'ont demandé d'arrêter les enfantillages, j'aurais promis d'essayer. On va en parler après, c'est grave.
Mais monsieur
je remets un rapport en commission, vous le faites disparaître pour pas qu'il soit dans le compte-rendu de la commission.
Bon, allez, on va arrêter là. Donc,
c'est honteux.
Voilà
c'est
le musée.
Honteux.
Monsieur Luneau,
c'est bon. Du vol.
Monsieur Luneau, j'ai passé l'âge de faire des enfantillages, pareil. Madame Le Golvan.
Oui, j'ai apprécié ce qu'a dit Monsieur Buquin. C'est bien de défendre son chef de parti et de aussi bien que vous l'avez fait. Par contre, à plusieurs reprises, moi, je me suis fait quand même démolir dans ce conseil. Aucun d'entre vous, certains sont venus me voir après parce que c'était une attitude inadmissible de Monsieur le maire. Donc moi, je veux bien... En effet, travailler et peut-être, évidemment, essayer d'être courtois. Maintenant, quand on défend des positions, parfois, on est un peu plus vive. Mais d'être vive, c'est pas non plus... Enfin, je n'ai jamais insulté. Et pourtant, toutes ces années...
Non, c'était... je pense que je vous ai jamais insulté, madame Le Golvan.
Ah, monsieur le maire, vous oubliez. En tout cas, voilà, j'aurais aimé vous entendre aussi me défendre, en tant qu'homme en plus, me défendre quand j'ai été insulté.
Je vous ai jamais insulté, madame Le Golvan. C'est totalement faux. Alors, je vous propose de passer au vote sur ce rapport. Est-ce qu'il y a des votes contre ?
Et pas présenter les projets avant le vote ?
Non, je pense que ça suffit. Je pense que tous les conseillers municipaux sont un peu fatigués. Donc, qui vote contre ? Voilà. Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Je vous remercie. Monsieur Durand, la modification simplifiée du plan local d'urbanisme, s'il vous plaît ? Ah oui, pardon, oui. Alors, bon, je vous rappelle le contexte. Hein, donc, en application de la loi Elan, donc le SCOT du Pays d'Auray a identifié donc des secteurs déjà urbanisés. Vous savez que c'est une législation qui a été adoptée dans le cadre de la loi Elan pour essayer de mettre un terme au verrouillage dans nos villages, enfin, en tout cas, dans nos hameaux, puisqu'au titre de la loi Littoral, ce ne sont pas des villages, permettant d'urbaniser de manière, je dirais, relativement raisonnable ces villages, dont beaucoup d'habitants sont un peu coincés, soit parce qu'ils sont propriétaires d'une dent creuse, soit parce qu'ils ne peuvent pas étendre leur maison. Et donc, nous avons pris un arrêté en décembre 2021 afin d'engager donc cette procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme, dont aujourd'hui, je rappelle que nous votons non pas le fond, mais le bilan de la concertation préalable que M. Durand va nous présenter. Monsieur Durand.
Donc, dans cette concertation préalable, il y avait donc plusieurs courriers, plusieurs manières de présenter. Il y a eu des courriers adressés par registre sur le registre de la mairie. Il y a eu des courriers adressés directement à la mairie et il y a eu des courriels. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de réflexions. En fait, je crois qu'il y en a eu 17. 17, bon, toutes d'ordre général. Également des réflexions comme quoi que c'était un peu dur au niveau de la valeur de son bien et rendrait inconstructible la parcelle. Du fait qu'il y a des arbres, comme quoi les avis sont assez partagés. Tu vois ? La deuxième, s'assurer d'une constructivité de parcelles au sein du SDU du Moustoir, par exemple. Et l'extension d'un camping, ce qui est complètement hors sujet. Voilà. Dans les courriels, en fait, il y a eu 4 pour demander l'évolution d'un périmètre de SDU, contester le caractère constructible, ce qui n'est pas beaucoup, de Kerluire, de Kerlan, ancien village, que soit un SDU. Le village de Kerlan n'a pas été retenu comme SDU. Je parle du vieux village de Kerlan. Attention. D'accord. Il y a eu 2 pour des divisions et constructibilité des dents creuses, des SDU. 4 pour des changements de zonage sur le hameau de Carlan ou appel numéro 1 rue Dupot, demande hors sujet, augmentation d'extension de 50%. Vous savez que dans les nouvelles réglementations, on a la possibilité d'augmenter donc de 50 mètres carrés toute construction située en zonage A ou N. Et il y en a un qui a demandé évidemment que ça ne soit pas 50 mètres carrés, mais que ça soit 50%. Sachant qu'en campagne, on peut avoir de très très grandes maisons, voire 200, 300, 400 mètres carrés, tout compté avec les hangars, ce qui ferait des augmentations plus que doublées. Donc ça, c'est impossible. D'accord ? C'est le jeu du SDU. Hein. Voilà. Autrement, ben, après tout ça, ça va partir chez le commissaire enquêteur. Il y a une enquête publique donc, qui va se dérouler fin septembre jusqu'à fin octobre. Et on aura les résultats après avec le commissaire enquêteur. C'est à peu près tout.
Sur ce rapport, je vous rappelle qu'on vote sur le bilan de la constatation préalable.
Hein. Oui. C'est un bilan, simplement.
Un peu plus tard, après, il sera amené aussi, et j'espère que...
Pour aller déposer éventuellement ce fameux rapport, puisqu'il a vocation à être présenté éventuellement au commissaire enquêteur. Alors, monsieur Luneau.
Je vous remercie. On n'a pas vu de compte-rendu de la réunion publique.
On a repris les grandes leçons de cette réunion publique et les interventions, mais ça fait office de
compte. L'avis d'un conseiller municipal d'opposition à cette réunion publique a disparu.
Oui, c'est parce qu'elle était hors sujet, tout simplement.
D'accord. J'ai envoyé par email aux membres du conseil municipal une note que je vous distribue. Donc, je vous la lis. Pour qu'elle fasse partie du compte rendu du conseil municipal. Je l'ai envoyé par mail également à la directrice générale des services pour qu'elle soit bien consignée dans les minutes du conseil municipal. Donc moi, je constate que ce vendredi 28 juillet 2023, on a des dysfonctionnements et des irrégularités dans la procédure de travail de la commission urbanisme. La mairie de Carnac se met dans l'unanimité en faisant voter au conseil municipal le bilan de fin de concertation préalable de la procédure de modification du plan local d'urbanisme numéro 2. Mon avis en tant qu'élu d'opposition et membre de la commission urbanisme n'a été ni entendu ni comme membre du conseil municipal afin qu'il puisse valablement s'opérer. Je conteste le compte rendu de la commission urbaniste du 29-23.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Le document 23 pages, note et avis sur le projet de délibération pour la modification simplifiée numéro 2 du plan local urbaniste et bilan de l'administration préalable.
Il y a pas de fil en ce moment pour faire la figuration, mais t'as pas le droit en ce moment.
Ok, allez, laissez monsieur Luneau terminer et puis. Allez, monsieur Luneau.
Mon rapport, note et avis sur le projet de délibération pour la modification simplifiée numéro 2 du plan local d'urbanisme, PLU, et le bilan de concertation préalable que j'ai remis, n'a pas été présenté en commission urbanisme et ma contribution à la réflexion et au travail de concertation n'a donc pas été portée à la connaissance des membres de la commission. L'avis de la commission urbanisme présenté au conseil municipal est donc par voie de fait incomplet. Vous contestez cela ? Non, je pose la question au maire.
Non, on respecte parfaitement la légalité. Allez-y.
Donc, l'objectif était de permettre aux membres de la commission urbanisme de débattre sur les différents hameaux dont le classement en secteur déjà urbanisé, SDU, irait à l'encontre du code de l'urbanisme et des dispositions de la loi Elan, afin qu'il soit rendu compte de ses avis aux membres du conseil municipal.
Il y a une faute d'orthographe, tiens.
Il n'a pas été diffusé en commission. Et je vois qu'il n'apparaît pas au compte-rendu de la commission urbanisme. C'est-à-dire que je l'ai envoyé par mail au préalable. Je l'ai présenté en commission. On me l'a shippé en me disant qu'on allait me le rendre en fin de commission. Je suis allé à la fin de la commission. On m'a dit qu'on me le rendrait en commission finance. Je n'ai rien vu en commission finance. J'ai écrit le lendemain à la collaboratrice de cabinet du maire qui ne m'a pas répondu. Je l'ai relancé 2 jours plus tard. Je suis obligé d'aller à la gendarmerie.
Pourquoi vous aurez shippé un document que vous avez envoyé par mail à
tout le monde ? Je remets un rapport que nous avons rédigé avec des personnalités qualifiées qui habitent la commune, qui connaissent la commune, pour dire que la mairie de Carnac se met dans l'illégalité en forçant.
Vous êtes encore tout rouge, hein, monsieur Luneau. Calmez-vous. Alors, donc, on est dans l'illégalité. Continuez à lire votre texte.
En conséquence, notre assemblée plénière ne peut valablement délibérer sur le point numéro 9 que nous sommes en train de traiter. Modification simplifiée numéro 2 du plan local d'urbanisme, bilan de la concertation préalable. Donc, il me semble important de préciser au conseil municipal que 4 associations, dont la AALLPA, ont engagé un recours en annulation contre la modification simplifiée du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, adopté le 7 juillet 2022 par le pays d'Auray, dont la commune d'Auray-Quiberon-Terre-Atlantique, ACTA, fait partie, et dont la commune de Carnac fait partie aussi de fait. Donc il ne me semble pas judicieux pour la commune de Carnac d'aller donner du grain à moudre à ce recours au tribunal administratif, encore une fois, en faisant voter en conseil des choses qui nous mettraient dans l'illégalité. Avez-vous une idée sur la question ?
Avant de passer au vote ? Non, j'en ai pas. Monsieur Guimard ou Madame Le Goldon, vous aviez une remarque ?
Oui, par rapport au SDU, en fait, j'ai été faire un peu le tour des villages, là, voir un peu ce que ça représentait, parce que c'était compliqué, je trouvais, de définir, de voir le périmètre. Parce que quand on voit le périmètre, c'est tout le village. Donc j'ai compris qu'en fait, un SDU ne pouvait être défini que quand il y avait une trentaine de maisons. Donc évidemment, c'est pour ça qu'on prend tout l'ensemble. Et je me suis arrêtée plus précisément au Moustoir, parce que là, c'était assez parlant. C'est-à-dire que quand on arrive au Moustoir, sur la droite, quand on part de Carnac, sur la droite, c'est des maisons plutôt modernes, plutôt récentes, on va dire. Et là, les SDU, c'est-à-dire de pouvoir faire des constructions nouvelles, ça peut se prêter. Par contre, du côté village, où tout est en pierre, c'est vrai que ça me paraissait un peu compliqué. Surtout que du coup, j'ai superposé les cartes de la VAP avec le SDU. Et là, enfin, je pense qu'en tant que propriétaire, on sait que tout est du coup constructif. Enfin, quelque part, un SDU rend constructible toute la zone, on est bien d'accord. Hein. D'accord, comme à Clou-Carnac d'ailleurs. Donc tout est constructible. Par contre, quand on superpose avec la VAP, là, on se rend compte que finalement, c'est un peu peau de chagrin. Ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Donc ça, c'était ma première remarque. Deuxième chose, c'est que on nous a dit lors de la réunion publique qu'il y aurait à peu près 40 maisons, si je me souviens bien, qui pourraient, enfin, 40 constructions, nouvelles constructions, c'est ce que il
c'est
me
le,
semble.
C'est le, oui, c'est le consultant qui nous a dit ça.
Ouais. Voilà, enfin, 40 constructions.
C'est un calcul, je dirais, approximatif. Hein.
Ce qui aurait été intéressant, c'est justement de formaliser sur la carte, enfin, sur les cartes SDU, en tout cas, ou la carte SDU, de nous mettre là où c'est possible, parce que il y aura confusion, évidemment, dans la tête des gens en se disant tout est constructible dans les hameaux, alors que dans les faits, c'est pas tout à fait ça. Alors,
non, il a très bien expliqué. En fait, on peut pas le faire parce qu'en fait, c'est aux gens de déposer, qui déposeront un projet d'extension, de décider où ils veulent le faire. Mais je crois que pendant la réunion, enfin, en tout cas, moi, j'ai discuté avec les gens à l'issue de cette réunion, tout le monde a bien compris que ça ouvrait une perspective de constructibilité, au même titre que quand vous avez un terrain constructible de X 1000 mètres carrés, il y a un coefficient que vous pouvez utiliser pour construire, et puis le reste n'est pas constructible. C'est pas parce que tout le terrain est constructible que vous pouvez construire sur les 1000 mètres carrés du terrain. C'est exactement le même principe pour les SDU, c'est-à-dire que ça offre une possibilité d'extension de construction, mais elle est limitée d'abord au regard de la construction existante et ensuite aux règles, au terme des règles d'urbanisme. Donc les gens ont parfaitement compris qu'ils ne vont pas pouvoir construire une maison sur quelques dizaines de mètres carrés. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu de la réunion.
Alors justement, le plus difficile en urbanisme, c'est d'appliquer la règle. Et Monsieur Durand, pendant les 6 années que j'ai fait en commission urbanisme, le plus difficile, c'était d'agiter le drapeau « doit respecter l'environnement architectural ». Je reviens donc au Moustoir. Quand on voit au Moustoir donc la partie gauche, qui est quand même magnifique, c'est que des maisons en pierre. Donc l'exigence sera celle-là, ou c'est parce que c'est que notre, les goûts et les couleurs, ça n'appartient, on n'a pas tous les mêmes goûts et couleurs. Alors, est-ce que de respecter l'environnement architectural, ce sera aussi de commencer à respecter les matériaux utilisés dans le même village? Là, ça changerait les choses. Et comme vous devez modifier votre PLU, si on notait ça plutôt que de dire doit respecter l'environnement architectural, mais si on mettait la mention, on doit utiliser les matériaux à l'identique de ce qui existe, ce serait plus juste en tout cas.
Alors déjà, d'une part, il y a l'ABF y veille, obligatoirement. Mais si, dites pas non, Madame Golvan, vous le savez très bien. Il y veille pour justement respecter les matériaux de construction. Il ne faut pas oublier que quand il y aura des divisions, il y a toutes les règles d'urbain à respecter. Le caisse, il y a également comment le coefficient d'imperméabilisation. Donc ça va réduire les maisons, ça je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même des grands terrains du côté du Moustoir, sur la gauche, la partie du fond, il y a des terrains constructibles.
Il n'y en a pas beaucoup,
je suis d'accord avec vous.
Mais justement, M. Durand...
Sur l'ensemble, il y en a 10 quand même, hein, 10 SDU. Oui. 10 SDU, quand on dit 40, ça ne fait pas beaucoup.
Mais, là,
ça correspond à peu près par 4 par SDU, on n'y est pas loin. Hein.
Mmh. Ah non, mais... loin. Par contre, ce terrain, justement, j'y suis allée, quand on voit la jolie longère qu'il y a juste sur la droite et le terrain... Oui. Alors, je ne savais pas si c'était un commun de village, du coup, j'ai demandé la carte des communs de village, parce que j'avais l'impression quand même qu'à cet endroit-là, ça pouvait être un commun de village auparavant, donc ça, on ne peut pas y toucher.
Vous parlez du terrain qui est au milieu, là ?
Au fond, au Moustoir, c'est celui-là dont vous me parlez. Parce il y a la longère, la très belle.
Oui, tout à fait. Belle, mais... tout à fait.
D'accord. Et donc, c'est sur la gauche.
Elle a un terrain côté rue qui est constructible. Oui. Elle est dans le SDU. Oui. Elle a un terrain constructible.
Donc, ça veut...
Maintenant, le terrain qui est au milieu, qui est l'emplacement de l'ancienne chapelle, Sylvie peut en parler à ma place, connaît bien les lieux.
Là,
ce ne sera pas possible de construire, évidemment. C'est un secteur protégé.
Mais alors, quand je reprends l'exemple, parce que du coup, ça ramène au début de ma présentation, si on voit ce terrain près de cette très belle longère, on fait quoi? On autorise une maison, je dirais, avec des modernes, ou on demande à l'identique de la longère? C'est toute la subtilité.
Je ne sais pas si vous étiez jusqu'à la fin, mais à la fin, il a présenté le cahier des charges, je dirais, architectural, dans lequel, effectivement, on impose un certain nombre de considérations architecturales et également de matières. Enfin, je ne sais pas, Michel en parlera beaucoup mieux que moi. Qui fait qu'effectivement, on ne peut pas faire de l'ultra-contemporain à certains endroits. Il faut reprendre. Et ça, tout ça, c'est dans la notice des SDU. Mais Michel, tu en parleras sûrement.
J'allais dire ce que tu allais dire. Obligatoirement, c'est là que rentre l'avis de l'ABF. Et il sera impartial. L'avis de l'ABF, ça c'est clair. Il fera construire, en l'occurrence au Moustoir, ce seront des constructions en pierre. Ça c'est clair. C'est évident. On ne peut pas. Autant sur la partie droite, ce sont des maisons relativement récentes. Hein. Elles ont été faites dans les 10-20 ans en arrière. C'est ça, Sylvie. Il n'y a pas plus. D'accord. Ouais, ok. Donc c'est pas si vieux que ça. Et là, c'est pas le même intérêt, patrimonial. Ça c'est clair. Je suis d'accord avec vous, là, c'est sûr. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et il y a des possibilités.
Ce qui semble difficile à comprendre, c'est que la moitié des secteurs déjà urbanisés identifiés par la commune de Carnac, et qui les choisit et qui les propose au SCOT, au schéma de cohérence territoriale, sur la moitié de ces hameaux, il y en a... Enfin, sur la moitié des 10 hameaux, il y en a la moitié où vous ne pouvez rien faire. Et on promet aux Carnacois, aux Carnacoises, une potentielle constructibilité qui n'aura pas lieu. Le code de l'urbanisme est clair, la loi Élan, les principes de Élan sont clairs. Et je trouve ça vraiment pas sport, pardonnez-moi l'expression, d'aller promettre de la constructibilité qui n'aura pas lieu.
J'ai rendez-vous d'une personne de Kerluire, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Elle regrette un SDU parce que ça donne la possibilité d'une construction. Donc ça va la cacher, elle a une vue directement sur le tumulus, elle est embêtée. C'est quand même assez marrant. Alors que là, il y a la possibilité de faire deux maisons, c'est deux grands terrains.
Dans cette affaire, on respecte la loi. Je veux dire, c'est la loi Élan qui a fixé les modalités. Nous, on ne fait que l'appliquer. C'est vrai qu'on a un vrai problème dans certains villages de construction ou même d'utilisation des dents creuses qui ne pourront... c'est un problème qui est pérenne depuis l'interprétation par le tribunal administratif de la notion de village au titre de la loi littorale. Et c'est vrai qu'on a des terrains qui sont des friches aujourd'hui, qui appartiennent à des Carnacois et qui pourraient donc être lotis. Mais on a toujours dit, y compris pendant cette réunion, que l'extension de l'urbanisme était extrêmement limitée, très encadrée par la loi, et qu'il ne s'agira pas d'aller... on ne va pas faire beaucoup de choses. Mais vous savez, Monsieur Luneau, pour certaines personnes, pouvoir agrandir, faire un garage ou agrandir une pièce supplémentaire, ce sont des choses qui sont importantes. Enfin, on l'a vu pendant la réunion et après avec la discussion avec les gens. C'est attendu avec beaucoup d'impatience dans les villages.
J'étais à cette réunion et je le sais aussi. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous faites la promesse que ça va être possible, alors qu'on sait déjà que ça ne le sera pas.
Quelle promesse ?
Mais que on est en train de vous dire, enfin je suis en train de vous rendre compte que vous faites une liste des hameaux, vous la soumettez au SCOT, le SCOT la valide, et il y a une partie des hameaux où ça ne sera pas possible.
Je ne comprends rien à ce que
mais
vous
oui.
dites.
Non, c'est étonnant. Je pense que c'est une partie de l'explication.
Alors, est-ce qu'il y a... Monsieur Guimard ?
Une petite remarque. Souvent, en commission urbanisme, on nous oppose le fait que le projet est légal, malgré souvent le fait que ce soit un peu moche. Si on peut dire. Donc je crains un peu que, quand bien même vous nous dites, oui, typiquement en moustoir, ça restera en pierre, on présente des projets qui soient dans la légalité du scope de la loi Elan, de l'ABF et de tout le monde, mais qu'en fait, ça ne respecte pas l'architecture globale. Voilà.
Alors, c'est ce qu'ont beaucoup de mal à vivre parfois certains conseillers municipaux qui participent aux commissions d'urbanisme. Mais je pense que M. Guimard et Mme Le Golvan, vous le savez, un permis de construire est instruit en droit. Pas en bah, j'aime pas le bleu ou ça c'est pas joli. Donc c'est vrai que c'est parfois frustrant, hein, moi je le comprends aussi. Il y a des choses, des propositions architecturales que je n'aime pas non plus. Et souvent, Michel vient me voir en disant oh là, c'est pas beau. Sauf que pour refuser, et vous le savez, un permis, il faut une raison légale, une base légale. Donc si vous refusez un permis à quelqu'un qui a déposé un permis qui respecte parfaitement le règlement, le PLU, bah, vous êtes sûr de perdre devant le tribunal administratif. Ce qu'on peut faire, et ce que Michel fait assez souvent, hein, c'est d'aller voir le propriétaire en disant « Bon, bah, votre permis, il est légal, mais est-ce que vous pourriez modifier ça ?» Et ça, on le fait en permanence. On le fait en permanence. Après, encore une fois, un permis, ça s'instruit en droit, malheureusement.
Oui, mais dans le PLU, à chaque, pour chaque zonage, c'est écrit, presque toutes les pages d'ailleurs, doit respecter l'environnement architectural. Le problème, c'est oui. que c'est...
Sauf que, légalement, hein. Madame Le Golvan, c'est très compliqué voilà, de le défi, de, enfin, de, c'est quoi exactement? Donc, c'est là où on a, ça nous permet cette marge de manœuvre d'aller, pour négocier avec les dépositaires et de faire en sorte de les faire évoluer vers ce qu'on souhaiterait et ce qui est souhaitable. Mais dans le cadre de la VAP et dans le cadre des SDU, c'est très, très encadré quand même. Parce que l'architecte de bâtiment de France a son mot à dire. Il est indépendant, il peut pas, voilà, il est hermétique aux pressions de nos concitoyens, et c'est pour ça qu'il intervient sur ces dossiers. Et il est le garant du respect de l'intégrité architecturale. Mais bon, je sais très bien que ça m'est arrivé d'être aussi frustré de signer un permis que je trouvais pas formidable. Encore une fois, on l'instruit en droit. Non, et puis surtout, ça tient rarement devant une juridiction. C'est ça, le problème. Ouais. Bon, je vous propose de passer au vote. Sinon, M. Pierre-Cargovien va nous gronder pour l'exposition sur les huîtres plates. Est-ce qu'il y a des votes contre cette... Est-ce qu'il y a des abstentions? Parfait. Merci beaucoup. Si, on a vu. Merci beaucoup. Monsieur Durand, cession d'une parcelle BH 218 rue de Courdiec à Madame Dodin.
Donc, comment ça marche hein? Ah, pardon. C'est comme ça? Où il est? Oui.
Ici, on le voit.
Ici. D'accord. J'appuie dessus en même temps. OK. Donc, cette maison qui est ici, elle a été achetée récemment. Madame Dodin, vous la situez. La crèche est ici. La rue du Souvenir français qui va au cimetière de Bellevue, elle est ici, donc vous la situez à peu près tous, vous voyez. Juste devant ici, il y a un terrain, c'est un délaissé, c'est un terrain communal qui fait 140 mètres carrés, je crois. Et il y a une pente énorme entre la rue de Courdiec et le sous-sol de la maison. Je dirais, pour vous donner une idée, le sous-sol de maison est à peu près, je dirais, 5 mètres 50 de dénivelé. C'est un truc, c'est une pente qui est comme ça. Donc, Madame Dodin, puisqu'elle est citée, elle a demandé d'acheter cette parcelle afin de refaire son chemin d'accès pour descendre plus doucement vers le sous-sol où il y a une entrée de garage à cet endroit-là. Voilà. Donc, ce terrain, il faut savoir qu'il a une dénivelée à peu près d'1,50 m, comme je l'ai dit, entre la rue de Courdiec et le bas ici de la clôture. On n'en ferait rien du tout, je ne pense pas. Déjà, si on le prenait, il faudrait mettre un mur de soutènement. Il faudrait le combler. Je ne sais pas à quoi réellement il peut servir, ces 140 mètres carrés, quoi. Je ne sais pas. Votre avis là-dessus? Oui.
J'en avais pas, mais combien de logements vont être construits au sud de la crèche? Parce que...
Bonne question.
C'est le projet de Parc Bellan.
Bellevue,
qui fête ses 20 ans au moins.
C'est 120, non?
Parce qu'il faudra un rond-point un jour ici.
Un rond-point à quel endroit?
Bah, à quel endroit logement la mandature va-t-elle construire?
Non, voilà.
Et l'accès se fait par où pour le
la sortie, le la grand sortie, projet. La sortie de ça marche plus.
C'est 140 logements.
Écoute, Pierre Léon, la sortie de Bellevue ne sort pas par là. Déjà d'une part, elle sort par l'autre côté, et il y a une autre entrée qui est un peu plus basse ici, je crois.
Ouais.
Hein, c'est ça?
Ouais.
Voilà.
Mais t'as des entrées et des sorties, il y en a plusieurs pour éviter justement d'avoir, dans Bellevue, d'avoir la problématique. Pardon.
Avec Michel et Sylvie, dans le futur projet de Bellevue, il y avait prévu effectivement plusieurs entrées, plusieurs sorties pour éviter justement cette problématique-là d'arriver à sortir tout d'un endroit et enfin que tout le monde rentre par un endroit et sort soit par le même endroit ou par la même sortie. Donc on a effectivement vu travailler, qui n'est pas encore finalisé, loin de là, pour qu'il y ait plusieurs entrées et plusieurs sorties pour éviter cette problématique-là.
Et si la rue de Cordillac n'est pas très large. Si tout va bien, donc Bellevue, combien de logements livrés quand? Parce qu'on arrive à être très précieux sur les dates de livraison ici.
Bah, ça va commencer, fait, les 20, je pense.
Les 20
ans
du projet.
On peut espérer, c'est un dossier très compliqué.
Très vous savez.
C'est à Bellevue, c'est je pense peut-être voilà déjà les acquisitions sont en cours hein, parce que il faut acquérir les terrains, donc ça aussi il y a quelques terrains où il y a des indivisions un petit peu compliquées, mais c'est en bonne voie et j'ai bon espoir que voilà les premiers coups de pioche en 2025 hein. Peut-être même avant. Alors, est-ce qu'il y a des
balcons ? C'est un autre sujet. Alors, est-ce qu'on profite de céder un morceau de terrain communal à un particulier pour un petit changement à Carnac, une invitation très cordiale à garer les voitures dans les jardins, parce qu'on dépense 100 000 euros pour faire une étude pour les pistes cyclables. Beaucoup de Carnacois et Carnacoises trouvent qu'il ne se passe quand même pas grand-chose, et qu'on sait que si les habitants de Carnac changent un petit peu, et j'en fais partie, se mettent à se garer dans le jardin, on fait de la place pour les vélos pour 0 euro. Ce qui est quand même assez génial.
On le fait tout le temps.
Est-ce que quand la commune cède à un prix très très amical un morceau de terrain, on peut en même temps mettre une petite mention en disant à condition de garer la voiture dans le jardin?
Ok, mais c'est déjà une obligation légale. Et voilà.
C'est une obligation dans les règles d'urbanisme.
C'est déjà on invite nos citoyens à le faire très régulièrement, y compris dans ma rue.
D'accord.
Et tu fais partie. Tu fais partie.
Ben
de la
non, ça marche pas parce que les gens sont pas toujours très citoyens.
Ouais.
Pose des questions incroyables. Tu fais partie.
Je m'y mets un petit peu, mais non, mais c'est une vraie question parce qu'on sait qu'on ferait de la place pour les vélos.
Faut commencer par le faire soi-même déjà avant d'inviter les autres à le faire.
Mais c'est vrai que vous l'aviez évoqué en réunion publique. C'est une mesure impopulaire que vous ne prenez pas. Et c'est peut-être le moment de le mettre là, de voir ce que ça raconte à la commune.
Je suis étonné, Pierre Léon, de ce genre de réflexion. Tu fais partie de la commission d'Urbain. Tu vois bien qu'à chaque fois, on parle des stationnements, qu'on contrôle les stationnements. Je sais pas, c'est pas inconnu pour toi. Quand
non,
même.
Je pose la question de savoir si.
Non, mais je posais la question. Si on demande de rentrer les voitures, c'est une obligation. Mais
d'accord,
tu sais
c'est
bien,
déjà obligatoire.
Tu sais bien.
D'accord. C'est obligatoire.
Putain.
C'est bon. Ah, vous aviez un.
Donc, si j'ai bien compris ton explication. On va lui vendre le terrain pour qu'elle puisse faire une autre ouverture pour un accès plus facile à son logement, c'est ça?
Non. Elle fait pas une autre ouverture, elle va inévitablement boucher celle qui est existante. C'est le tout petit carré qui est là.
Oui, je connais bien.
Le petit carré là, tu connais bien.
Très bien. Ouais.
Donc elle va boucher celui-là, puis elle va faire son entrée ici, de façon à faire quelque chose de moins pentu.
C'est ça.
Pour gagner 5,50 m de hauteur. D'accord. Pour éviter d'avoir une pente.
Parce que là, on a un petit souci quand même, c'est que légalement, puisque toi qui aimes bien, on aime légalement, on n'a pas le droit de faire une deuxième ouverture.
C'est pour ça
qu'elle n'en fera pas deux.
C'est pour ça que je te dis, elle va boucher celle-là obligatoirement.
Ouais, d'accord.
Parce qu'il y a moins de 50 mètres, on sait bien. Okay. On a discuté de 20 fois.
On le verra.
On verra, ouais, d'accord.
Bah, enfin, je pense que Yann, tu sais très bien comme ça, on le fera respecter.
J'ai déjà vu des choses.
Tu veux qu'on vienne sur.
Ça sera une demande, obligatoirement, ça sera une DP, mais je te tiendrai au courant, t'inquiète pas.
Qui est-ce qui définit le prix de cession?
C'est sur l'avis des domaines, en fonction de l'avis des domaines. On est tenu par ça. En général, on connaît à petit près le prix de un délaissé comme ça, ça vaut pas grand-chose. Ça coûte à la commune parce qu'il faut l'entretenir, il faut le faucher. Donc autant on essaye d'acquérir des terrains quand ils sont stratégiques ou quand il y a une surface suffisante. Là, ça fait partie des choses dont on ne peut rien faire. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Monsieur Marc Albert, une convention de servitude de passage avec Enedis.
Pardon, j'ai pas mis mon micro. Pour le parking des Lucioles, c'est pour installer un IRV et le coffret de réseau de la parcelle BD 1166 située en bordure du parking des Lucioles. D'autoriser le maire ou l'adjoint à signer l'acte authentique et toutes les pièces nécessaires. Voilà.
J'imagine qu'il n'y a pas de remarques. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Monsieur Durand, un déclassement d'un chemin communal qui n'existe pas à Kerbois.
Oui, si on peut voir le plan. Voilà. Bon, ça, c'est le domaine de monsieur et madame Marscouette à Kerbois. Vous voyez où c'est Kerbois ? Après le purgatoire, avant de, sur la route de Plémel. D'accord ? Donc ça, ce sont ces bâtiments de ferme. Il y avait sur le cadastre un, comment dirais-je, un tracé de chemin qui partait d'ici, qui traverse ce bâtiment, qui fait ça, qui descend ici et qui va quelque part s'arrêter quelque part ici. Bon, tous ces parcelles de terrain-là appartiennent à M. et Mme Arscouette. Ils n'ont, celui qui tient actuellement la ferme, M. Arscouette, donc n'a pas connu de son vivant, il ne connaissait pas ce chemin. Il ne savait pas qu'il existait, sauf qu'aujourd'hui, ils ont l'opportunité de vendre l'affaire. Et ce sont deux jeunes agriculteurs qui vont venir sur la commune s'installer. Et donc, ils ont découvert par le cadastre qu'il y a eu un chemin de dessiné sur le plan cadastral. Donc, il faut le faire disparaître. Donc, on voulait le faire, je dirais, prendre par le futur acquéreur, mais qu'il soit déclassé au niveau de la commune. Oui.
Comment de quand date la construction, le bâtiment agricole qui traverse ce chemin qu'on distingue, hein, on le devine, on comprend qu'il a ça fait bien longtemps. Et le bâtiment qui traverse, qui est posé sur le chemin, on a l'année de construction de ce bâtiment-là ?
Oh, celui-là, il est relativement récent. Je pense qu'il doit avoir dans les 30 ans.
D'accord.
Mais il n'a pas été construit sur le chemin, il n'y avait pas de chemin, c'est pour ça. Ah. C'est pour ça qu'il est là.
Le cadastre dit qu'il y a un chemin, mais il n'y a pas de chemin.
Non.
Et il y a un bâtiment
en train de... Le cadastre est truffé d'erreurs. D'ailleurs, il n'a pas valeur...
Dans la réalité...
Il n'a pas de valeur juridique, le cadastre. Et en plus, si vous connaissez bien le cadastre de Carnac, Monsieur Luneau, il est truffé d'erreurs. On en trouve quasiment toutes les semaines. Il n'y a pas de chemin à cet endroit-là, sinon, évidemment, on garderait le chemin.
Pour aller où ?
Au bout du chemin. Pour aller au bout du chemin.
Il s'arrêtait quelque part ici. Là, c'est la voie ferrée.
Au bout du chemin.
C'est la voie ferrée. Il n'y a pas de passage à la voie ferrée non plus. Donc, c'est même pas pour un entretien. Au début, je pensais que ça a pu être prévu pour l'entretien de la voie, mais ça l'est même pas.
L'autre point, c'est qu'on a vraiment besoin que de jeunes agriculteurs s'installent. Ça leur facilite leur installation. Et donc, à ce titre, à mesure où, enfin, je pense que ceux qui se sont rendus sur place ont pu constater qu'il n'y a pas de chemin, qu'il ne débouche sur rien, je pense qu'il faut tout faire pour que ces jeunes agriculteurs puissent s'installer et continuer à travailler sur la commune. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. La convention de servitude de passage avec toujours Enedis, monsieur Marc Albert ?
Ben oui, ça continue.
Encore ? Et pourquoi vous n'avez pas mis les unes après les autres ?
Ben parce que comme ça, on met Michel entre nous, ça change un peu, c'est pas toujours les mêmes qui parlent. Voilà. Là, c'est une convention de passage pour un branchement électrique pour Bouygues Télécom sur la parcelle AC 827 située en bordure de la rue de l'Opidium. Voilà. C'est rigolo parce que les deux zones de Montauban et Bosséno, c'est géré par Acta, puis c'est nous qui avons fait la délit pour le truc parce que ça passe juste à la limite de propriété. Voilà.
Bon, pas de vote contre, pas d'abstention, merci. Une modification des tableaux des emplois, madame Gassin.
Oui, alors au niveau du tableau, il n'y a pas d'emplois supplémentaires, c'est juste des régularisations. On a déjà parlé, effectivement, il y a donc 4 postes. Le recrutement effectif d'un conducteur d'engin qu'on cherchait depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, on l'a trouvé. Donc maintenant, il passe dans les effectifs. Modification, voilà, d'un poste d'agent d'accueil adjoint à la médiathèque. La même chose au niveau du musée et le recrutement effectif de la chargée de mission auprès de la DGS. Les postes étaient créés, maintenant on les a mis en actif.
Parfait. Est-ce qu'il y a des votes... Ah, madame Le Gallois.
Oui,
Je voulais juste avoir une précision. Quand vous dites le recrutement effectif de la chargée de mission actuellement, c'est madame...
Ben, on, enfin, normalement,
oui, d'accord, non, mais c'est la personne...
Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Ok, donc là, pourquoi recrutement effectif? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à son statut actuel?
Eh ben, je pense que c'est parce qu'elle n'est
pas... Elle est pas titulaire.
Elle est contractuelle, c'est ça, non?
Non, non, c'est que le poste avait été créé lors du dernier conseil, municipal du mois de mars, et elle est arrivée, entre-temps. On ne peut créer un agent ne peut être embauché que si le poste est créé. On ne peut pas le faire avant.
D'accord.
Donc le poste avait été créé au conseil municipal du mois de mars,
et donc, du coup, c'est...
Normalement, il est affecté.
Oui, bah, c'est passé en non-valeur une créance du musée hein, qui date de 2007. Voilà, on en a déjà vu sur la commune. Hein. Je vous avais dit qu'effectivement, il y a pas mal de petites choses qui étaient restées traînées à la trésorerie et donc mettre à jour. Alors la commune, c'est à peu près maintenant à jour. Et effectivement, il restait celle-là au niveau du musée pour 140 euros. En non-valeur, admission en non-valeur.
Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité, je vous remercie. C'est où en est le dossier du camping des Pins. Donc le dossier de camping des Pins avance. Nous sommes en négociation finale avec les propriétaires et donc on devrait être à même de signer un compromis dans les mois qui viennent. Voilà. Merci.
Du coup,
pardon.
Du coup, pour l'été prochain, ça paraît compliqué. D'accord. Non.
J'aimerais bien, mais non. Monsieur Luneau.
Je voudrais remercier l'assistance du conseil municipal qui est de plus en plus nombreuse et ça fait chaud au cœur de voir que de plus en plus d'habitants s'intéressent au point de venir au conseil municipal.
Il y en a toujours eu, monsieur. Il y en a toujours eu, monsieur Luneau.
Et à ce titre, est-ce qu'on peut ne pas...
Il y en a toujours eu, monsieur Luneau, mais vous êtes nouveau.
Et ça, il va falloir rajouter des chaises. C'est presque autant que les amis du musée pour venir voir le nouveau projet. Et bravo pour cette attractivité. Est-ce qu'on peut leur donner une idée de la date du prochain conseil municipal? Une estimation?
Non, je ne sais pas.
Non.
Non.
Il y en aura en août?
Non, je ne pense pas.
En septembre?
Sans doute, bon, peut-être.
Peut-être en septembre. Nous aurons peut-être un conseil municipal en septembre.
Bon week-end, monsieur Luneau.
Je vous remercie, monsieur Lepic.